Le thème de mon homélie aujourd'hui tient en une phrase que je vais vous livrer tout de suite. Tant il arrive parfois que vous vous demandiez « Mais où est-ce qu'il veut en venir ?» quand ce n'est pas pour dire après « Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Donc en ce deuxième dimanche de l'Avent, qui est un dimanche de la lumière, je voudrais être clair. Tout ce qui est réussi a été préparé. Tout ce qui est réussi a été préparé, tout ce qui a été préparé a été travaillé, réfléchi, examiné, étudié, pour pouvoir justement venir à la lumière et pour pouvoir mieux encore rayonner. Tout ce qui est réussi a été préparé, c'est ce que j'ai expliqué aux catéchumènes qui préparent leur baptême, aux enfants leur première communion, aux fiancés leur mariage. Tout ce qui est réussi a été préparé, c'est le sens de cette fête du 8 décembre, de l'Immaculée Conception, que nous fêterons demain, puisque le dimanche a priorité. Quel est le sens de cette fête? Dieu a préparé. Dieu a préparé une demeure digne de son Fils. Et évidemment, en ce temps de l'Avent, le propos s'applique aux fêtes de Noël. Vous allez, ou vous avez peut-être déjà commencé à les préparer pour qu'elles soient réussies. Et comment faire? Comment puis-je vous aider pour préparer Noël, pour que Noël soit réussi, pour que ce soit autre chose que ce que dit Jean-Baptiste dans l'évangile de ce jour, une vision assez minimaliste de cette rencontre, qui dit « Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Certains autour de nous pensent à Noël ainsi, pas la venue de la colère, mais comme une obligation à laquelle il faudrait sacrifier un rendez-vous obligé où il faudra faire bonne figure, se supporter les uns les autres. Dans tant de familles, dans tant d'endroits, de plus en plus autour de moi, et on me le dit. Comment faire? Alors ceux qui ont les moyens partent au soleil. Mais même en partant assez loin pour les vacances, ils n'y couperont pas. Avant ou après, il faudra bien voir la famille. Alors on me demande, est-ce que c'est une obligation religieuse? Dans la nuit de Noël, l'Évangile dit que Joseph et Marie étaient à la Bethléem pour se faire recenser parce que Joseph était de la lignée de la maison de David, c'était là sa famille. Et pourtant, ils n'ont pas cherché sur place de parents, de famille, de cousins. Il est peu probable qu'il n'y en avait plus. Il est peu probable aussi de la lignée de David qu'il n'était pas fréquentable. Le fait est en tout cas qu'ils ont passé la nuit de Noël seuls, avec les anges et les bergers. Mais Joseph et Marie ont passé la première nuit de Noël de l'histoire seuls, sans leur famille. Alors certains diront, pour que jamais plus quelqu'un ne soit seul à Noël. On peut le voir ainsi. Et puis d'autres diront, pour que, dans certains cas, nous puissions accepter de le vivre. D'être seul ce soir-là, seul après la messe. Plutôt que le contraire, c'est-à-dire passer un réveillon en famille sans aller à la messe. Noël sans messe, c'est quoi? Si la fête de Noël est une obligation que vous appréhendez, il y a peu de chances qu'elle soit réussie. Tout ce qui est réussi a été préparé, mais l'inverse n'est pas vrai. Tout ce qui est préparé n'est pas réussi quand il manque l'essentiel, quand il manque le désir, quand il manque le cœur. Faites un test, fermez les yeux. Pensez à Noël. Est-ce que ce que vous voyez est lumineux, chaleureux, enchanté, merveilleux? Ou est-ce que c'est sombre, rébarbatif, ennuyeux, obligé? C'est pareil pour la messe. Ceux qui s'ennuient à la messe ont décidé, ils ont choisi. Ils ont choisi de s'y ennuyer. C'était couru. Évidemment, on peut être déçu. Déçu par les chants, déçu par les gens, par l'église, par le prêtre. On peut être déçu par toutes sortes de choses. On peut être déçu surtout par tout ce qui a vidé les églises, par l'irrespect du sacré de la part même de ceux qui en étaient les garants. À Noël, on peut être déçu par l'attitude des uns et des autres, par sa propre attitude, par soi-même. Par tout ce qui peut gâcher une fête, l'assombrir, c'est-à-dire ce qui n'est pas en notre pouvoir. par différence avec les événements ou des circonstances qui peuvent être malheureuses, un deuil récent, un anniversaire de deuil, la maladie grave d'un proche. Je pense à ceux qui se demandent comment ils vont faire cette année pour vivre Noël, même s'ils vont le vivre, à cause de ces circonstances. Dieu a-t-il été déçu par l'accueil qui a été réservé à son Fils ? Son Fils dont la venue a été longuement annoncée par tous les prophètes. C'est pour ça que nous lisons Isaïe, c'est pour ça que nous retrouvons Jean-Baptiste à cette époque de l'année. Annoncé, préparé. Dieu connaît-il la déception ? Certainement au sens de la tristesse, devant de mauvais choix, devant des choix malheureux, égoïstes. Il connaît à la perfection la tristesse de tant de parents que leurs enfants ne viendront pas voir à Noël, sans qu'il y ait de raison objective, d'éloignement géographique ou d'histoire douloureuse de maltraitance. Ou pour certains, et de plus en plus, que leurs enfants n'accompagneront pas à la messe. Demandez-leur comme l'unique cadeau de Noël. Voilà une bonne idée de cadeau de Noël. Viens avec moi, viens, venez avec nous à la messe. Ou alors, quand ce n'est pas possible, offrez-leur une médaille miraculeuse. En 1842, c'est l'année de construction de la chapelle, la Vierge Marie est apparue à Alphonse Ratisbonne. Alphonse Ratisbonne, jeune homme d'origine juive, était de passage à Rome, il allait vers l'Orient ou le Moyen-Orient, et puis s'est arrêté quelques semaines à Rome. Il a rencontré un chrétien qui a cherché de toute force à le convertir. Mais vous savez comme moi que convertir par des paroles, il a obtenu une seule chose, que Alphonse porte autour du cou la médaille miraculeuse, celle qui avait été demandée par la Vierge Marie à Sainte-Catherine Labouré une douzaine d'années plus tôt, le 27 novembre, 12 ans avant 1830. Il l'a portée. Et ça ne suffit pas, bien sûr, on priait pour lui. Il entre un jour vers midi, par hasard, dans l'église Saint-André de l'Effraté. Et là, il trouve l'église dans l'obscurité complète, sauf la chapelle Saint-Michel, d'où émanait une lumière extrêmement vive. Il est pris de crainte, il allait s'en aller, quand la Vierge Marie lui apparut, pleine de douceur, et habillée exactement comme sur la médaille miraculeuse. Alphonse Ratisbonne a fondu en larmes. Et quelques jours après, il a reçu le baptême. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. L'incarnation, la venue du Sauveur a été préparée, annoncée, préfigurée, attendue. A-t-elle été réussie ? Nous le saurons à la fin des temps. À la fin, quand, comme dit l'Évangile, quand il amassera son grain dans le grenier. Je ne sais plus comment cette femme qui vient me voir tous les mois m'a trouvé. Elle n'habite pas dans le quartier, elle a 85 ans, elle a un très fort caractère. Elle n'a plus personne à la vie, elle met au moins une heure et demie pour venir tous les mois. Je ne sais pas comment elle va faire à la fin de la semaine. Mais elle viendra, c'est sûr. Et elle vient me parler parce qu'elle n'a plus personne d'autre. Et la dernière fois, elle m'a dit que sa vie, elle ne l'avait pas réussi. Vous savez, comme beaucoup de personnes, l'âge venant, disant l'impression d'avoir raté, pas réussi. Ça. Je lui ai dit si, si de tout ce qu'elle m'avait dit, si vous, si voyez toutes les épreuves que vous avez traversées, voyez tout ce que vous avez vécu et vous êtes restée droite, fidèle, inquiète, en recherche. Je lui ai dit continuez sur ce chemin de droiture. Continuez exactement comme ça, à vous relever autant de fois qu'il le faudra. C'est ça le critère d'une vie réussie. La question n'est pas d'être, c'est pas un but en soi d'être droit, c'est le signe, c'est l'attitude de Jean-Baptiste, c'est le signe du ressuscité. C'est comme ça que Jean-Baptiste était, droit, debout, et les foules venaient l'écouter. La vie heureuse du prêtre, la vie heureuse du prêtre, elle vient de toutes les rencontres de toutes les personnes. Bien sûr, il y a des deuils, il y a des chagrins, il y a des difficultés, mais toutes les personnes fidèles, qui aime fidèlement, qui ne cesse pas d'aimer, fidèle à elle-même et à Dieu. Mon bonheur, c'est de les faire parler de ce qui les passionne, de ce qu'elles aiment, de voir leur visage rayonner, s'éclairer justement de tant d'amour et de fidélité. Voilà le bonheur, voilà la vraie lumière, le vrai bonheur quand les deux vont ensemble, la passion et la droiture. Ce sont les deux adjectifs qu'une de mes fiancées, enfin vous comprenez, une de mes fiancées, que je prépare en mariage, elle m'a écrit une lettre d'amour, et je leur demande à toutes une lettre d'amour, pas. Bien sûr, même chose, pour dire pourquoi elle se mariait. Et elle a utilisé ces deux adjectifs pour son fiancé. Il est passionné et droit. J'admire, a-t-elle écrit, j'admire chez lui cette constance et cette persévérance à toujours défendre ses valeurs et ce en quoi il croit, sans jamais en rougir quel que soit l'auditoire. Il m'a appris à faire de même, sans m'en rendre compte, et à retrouver ce que j'ai toujours aimé. Ma famille, mes origines, ma foi. C'est beau, et elle a même ajouté, il est aussi foncièrement généreux, gentil et drôle. Ah, la perle! Il est marié, arrêtez de rêver, ça y est, il n'est plus libre. Mais j'ai quand même apporté un bémol. Quand je l'ai vu après avoir reçu cette lettre, je lui ai dit non, je ne crois pas qu'on puisse être à la fois droit et drôle. Je lui ai dit, plaisant, oui, aimable, modeste, souriant, oui, drôle, non. Et vous le savez très bien, c'est l'inconvénient des gens droits, des personnes honnêtes. Elles ne sont pas drôles. Elles n'aiment pas se moquer. Elles n'aiment pas parodier. Elles n'aiment pas, elles ne trouvent aucun plaisir dans la transgression ni dans la subversion. Elles ont le sérieux de tenir leurs engagements, d'être fidèles, de faire ce qu'elles disent. Les gens drôles sont drôles, mais ne sont pas rassurants. Le matin, chaque jour, je ne vais pas voir le Seigneur pour qu'il me fasse rire. Je vais le voir pour qu'il me relève, qu'il me donne des forces, qu'il me rassure, qu'il m'encourage. Noël n'est pas fait pour rire. C'est fait pour fortifier notre espérance. C'est fait pour nous rassurer, pour nous pousser de l'avant. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Alors c'est quoi de bons fruits? Il se trouve que la première lecture de ce dimanche donne la liste de ce qu'on appelle les dons de l'Esprit-Saint. Tout ce dont on a besoin pour préparer notre rencontre du Seigneur. La sagesse, l'intelligence, c'est-à-dire le discernement, le conseil, la force, la connaissance, la piété, la crainte du Seigneur. Et puis, vous reprendrez la liste, une autre liste qu'on appelle des fruits de l'Esprit-Saint, qui est dans la lettre aux Galates. Je l'ai présenté ces dernières semaines aux enfants du catéchisme, ils l'ont remarquablement retenu. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, humilité, douceur, maîtrise de soi. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on passe des dons de l'Esprit-Saint aux fruits de l'Esprit-Saint? Eh bien, ça s'appelle le travail de l'Esprit. Le modèle, c'est la Vierge Marie. Voilà pourquoi elle est la troisième grande figure de l'Avent avec Isaïe et Jean-Baptiste. Elle est la preuve que tout ce qui est réussi a été annoncé, préparé, travaillé pour pouvoir venir à la lumière, pour pouvoir rayonner. Tout ce qui est réussi a été préparé.